Donc je pense que, à titre personnel, je suis très heureux, mais surtout la fédération est très heureuse pour cette première journée d'accueillir Bruno Falissard. Alors Bruno Falissard est médecin, pédopsychiatre, professeur de santé publique, de biostatistique à Paris 11, élève, ancien élève de l'école polytechnique. Il est un de ceux dans le paysage que j'ai la chance de côtoyer, qui fait que quand on l'écoute, on se sent intelligent. Et c'est vachement agréable. Bon, il a accepté cette invitation, j'en suis encore une fois vraiment très heureux. Je vais lui laisser directement la parole. N'hésitez pas ensuite à vous laisser un peu emmener par sa réflexion et à y réagir dans un second temps. Sa conférence, il l'a intitulée « Existe-t-il des limites à l'approche scientifique dans la recherche en santé mentale ?» On espère que oui, mais à toi de nous en convaincre.
Ben, écoutez, merci de m'avoir invité. D'abord, ça m'a donné l'occasion de réfléchir sur ce sujet, qui est un sujet important. Et puis, félicitations pour ce que vous faites. D'avoir monté cette fédération en France, plein de personnes ont déjà eu l'idée et personne n'a jamais réussi à arriver au bout. D'ailleurs, il y a un an, quand on m'avait dit que, tiens, on va faire une fédération de recherche, je me dis, c'est très bien, il faut y aller, il faut avoir du courage, etc. Mais à mon fort intérieur, je me disais, en général, c'est difficile d'arriver à mettre tout le monde autour d'une même structure en vue de construire quelque chose de positif. Le fait que vous soyez arrivé au bout, c'est absolument extraordinaire et ça mérite d'être noté. Alors, l'intitulé de cette conférence est extrêmement ambitieux. Limite de l'approche scientifique de la recherche en santé mentale. C'est très ambitieux parce que, d'un côté, ça a à voir avec la recherche scientifique, qui est un monde en soi. De l'autre côté, dans le fond, cette question, c'est une question un peu philosophique. Quelles sont les limites à l'acquisition du savoir issu de la science? C'est une question philosophique. Et le problème, c'est que, moi je suis scientifique, je ne suis pas, absolument pas philosophe, et que d'un autre côté, si c'était un philosophe qui était venu vous parler de la même question, ben, il n'aurait pas été un professionnel de la recherche en santé mentale. Donc c'est insoluble. Alors comme c'est insoluble, on ne se pose jamais ce type de question. Qui pourtant, en fait, tout un chacun, les cliniciens, les patients, la société, se demandent quand même au quotidien, quand on voit le boom des neurosciences, les travaux extraordinaires qui sont faits, les résultats qu'on nous présente, par moments on se dit, oui mais quand même, ce qu'on me présente là, ça ressemble pas trop à moi, ce que je vis comme être humain, avec tous mes malheurs, etc., et ce que vivent les patients naturellement, qui sont ça à la puissance 10 ou à la puissance 100. Et donc, oui, les scientifiques ils nous apportent des découvertes, des résultats. Et d'ailleurs, depuis que la science s'est emparée de la psychiatrie, les patients vont mieux qu'avant. Ça, c'est quand même une constatation. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des limites? Parce que la psychiatrie, c'est quand même le sujet pensant. Et est-ce que la science, est-ce qu'il n'y aurait pas des limites à l'étude scientifique du sujet pensant? Donc ça, c'est une vraie grande question. Alors moi, je vous propose 100 façons d'y réfléchir. Quand je dis 100 façons, c'est que forcément, on va être obligé de parler de choses que les philosophes ont écrites dans les quelques millénaires qui ont précédé notre époque, et que je n'ai aucune autorité là-dedans. Donc du coup, je ne citerai jamais les noms des philosophes quand je les invoquerai. Et ça pour deux raisons, parce que d'abord, je n'ai pas de prétention à savoir exactement ce qu'ils ont dit, premier point. Deuxième point, parce qu'en général, on prend ça comme un argument d'autorité. Vous voyez, Kant a dit, Aristote a dit, et donc naturellement, comme ils ont dit ça, on ne peut rien dire. On ne peut pas dire le contraire. Et donc, ça empêche de penser. Donc, je vous dirai ce qu'ils ont dit, en vous disant juste, c'était à telle époque, et c'était un Allemand, un Français, comme ça, vous pourrez essayer de retrouver. Mais il n'y aura pas le nom qui écrase tout. Voilà. Alors, l'autre point, c'est que vous allez voir qu'en réalité, la réponse à cette question, existe-t-il des limites à l'approche scientifique dans la recherche en santé mentale? Eh bien, elle est simple. Elle n'est pas si compliquée que ça. Et que derrière cette question, en réalité, il y a des quiproquos, des non-dits et des incompréhensions sur ce qu'est la recherche scientifique et sur ce qu'est la santé mentale. Mais ça sera pour la fin. Alors, donc, revenons en arrière du temps des Grecs, puisque les Grecs se sont posés cette question dès qu'ils ont commencé à philosopher. ils se sont dit, oui, nous philosophons avec, en essayant d'avoir un discours raisonnable, mais est-ce qu'il n'y a pas des limites à ça? Ce qui est un petit peu la même, un petit peu le même questionnement. Alors le premier volet, ça a été de dire, certes il y a un savoir, donc qui vient de la raison, mais ce savoir, de toute façon, il faut le communiquer. Et quand on le communique, eh bien, il va y avoir des émotions, il va y avoir autre chose que ce savoir raisonnable. Ça a été le triptyque logos, donc logos c'est le discours raisonnable, ethos, pathos. Ethos c'est la personne qui parle, c'est, en fonction, on m'a présenté comme quelqu'un d'important, et donc du fait qu'on m'a présenté comme quelqu'un d'important, si je vous dis quelque chose, vous allez le recevoir différemment que si j'avais été présenté comme un interne en psychiatrie, même si ça ressemble plus tellement à ça, mais enfin... vous n'auriez pas accepté ce que je vous dis de la même façon. Et il y a le pathos, c'est-à-dire que quand je vais dire des choses, ça peut résonner, faire résonner en vous des émotions, et de ces émotions, eh bien, vous risquez d'accepter ou de ne pas accepter ce que je vais vous dire. Voilà. Alors, bon, ben ça, ben, c'est inhérent à la communication des êtres humains, et ça, d'ailleurs, les scientifiques devraient s'en souvenir. C'est qu'en fait, quand le scientifique communique, il y a de l'éthos et du pathos. Y compris dans les publications scientifiques écrites en langue anglaise à comité de lecture. Alors j'en veux pour preuve, par exemple, dans le domaine de la santé mentale, Crickes, le prix Nobel de biologie qui a trouvé l'hélice ADN, à la fin de sa vie, a eu une espèce de révélation qui était qu'il fallait qu'il fasse de la recherche sur le fonctionnement psychique de l'homme. Mais c'est-à-dire qu'il n'avait aucune culture là-dedans. Et il a écrit des trucs pas bons. Et ces articles ont été publiés dans Nature, la revue numéro un scientifique, parce que c'était M. Crickes. Et donc, il y avait un ethos tellement fort qu'on prenait ce qu'il écrivait, alors que quand on prend un peu de recul pour le lire, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc oui, dans le monde de la recherche scientifique, il y a la question de l'ethos, du logos, du pathos. Ben, c'est comme ça, mais ce n'est pas en soi une limite à l'approche scientifique. C'est une limite à toute transmission de connaissances. Alors, deuxième point, qui là est particulièrement pertinent par rapport à cette question, c'est le problème du mythe, vous savez, chez les Grecs. Donc, les philosophes grecs étaient vraiment pour le discours raisonnable, en essayant même de mettre de la logique derrière au maximum, mais ils devaient bien reconnaître de temps en temps qu'un bon mythe, en deux pages, ça en disait plus que des grandes dissertations philosophiques au bout desquelles on n'arrivait pas trop à comprendre ce qui se passait. Et ça, alors pourquoi le mythe, ça marche donc c'est l'opposition logos-mutos chez les Grecs. Et ça, là, alors on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors, y a-t-il vraiment une différence comme ça? Il y aurait deux modalités d'accès à la connaissance. Un qui serait à l'issue d'un raisonnement et l'autre qui serait immédiat avec une acquisition directe et intuitive d'ailleurs de la connaissance. Alors en pratique, ces mythes c'est quoi? Ce sont des fables et aujourd'hui ce sont des romans, des essais, des films, des poèmes. Et c'est vrai qu'on peut parler de santé mentale avec des films, avec des livres. Un vol au-dessus d'un nid de coucou, par exemple. C'est un film sur la santé mentale, sur la vie dans un hôpital psychiatrique, et ça dit des choses. Ça dit des choses. Henri Michaud, un poète, a écrit, vous savez, Misérable miracle. C'est son expérience après avoir pris de la mescaline, qui est un hallucinogène. Et ses poèmes, alors il a un tout petit poème pour décrire en très peu de mots ce qu'il a vécu comme étant des hallucinations, hein, puisque ces produits provoquent des hallucinations qui sont quelque part assez proches de ce que l'on vit quand on est schizophrène et que l'on a un moment délirant. Il disait 50 onomatopées différentes, simultanées, contradictoires et chaque demi-seconde changeante. Ben, en 20 mots, il vous dit comme ça, qu'est-ce que ça peut être la vie de quelqu'un qui est dans un état délirant, et 50 onomatopées différentes, simultanées, contradictoires, chaque demi-seconde changeante. Ben c'est fantastique d'arriver en si peu de mots à dire autant de choses. Et il faut être honnête, quand on est neuroscientifique et que l'on essaie d'expliquer ce qu'est un phénomène délirant, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. On arrive à des choses qui n'ont rien à voir. Alors, est-ce que du coup il y aurait des limites? Est-ce que ce que dit Henri Michaud, c'est inaccessible à l'approche scientifique? Alors, c'est différent, ça c'est sûr. Effectivement, je pense qu'il y a un accès immédiat, intuitif à la connaissance, et puis un accès qui est à l'issue d'un raisonnement. Oui. Mais ça ne nous dit pas, ça ne répond pas à notre question, est-ce qu'il y a des limites à l'un et à l'autre? Alors, ce que l'on pourrait, quand je vous ai dit un accès immédiat, on pourrait dire, ah ben, immédiat, c'est que quand même le mythe permet d'accéder à quelque chose dans une globalité. Vous voyez, c'est qu'on n'a pas... Le logos, c'est de l'analyse. C'est, on se pose une question et puis c'est la dissertation, quoi. C'est-à-dire, on dit oui, on dit le contre, et après, on essaie d'argumenter, et à force d'argumenter, on construit une connaissance. Mais elle est décomposée, vous voyez. Et on arrive, on voit la science en ligne de mire, c'est que effectivement la science ça réduit, ça analyse à l'extrême. Mais c'est vrai qu'avec la science on a du mal à avoir une vision globale du sujet. Alors ça c'est une vraie question en psychiatrie. D'ailleurs vous avez noté que la plupart des spécialités médicales sont des spécialités de réduction. Hein? La dermatologie c'est la peau, la rhumatologie c'est les articulations, la neurologie c'est les nerfs. La psychiatrie ça n'est pas une spécialité d'organes, ça n'est pas une spécialité du cerveau. Hein? C'est la spécialité des problèmes liés au sujet en tant que sujet pensant. Et donc c'est vraiment la globalité du sujet. Donc effectivement, nos pathologies, il faut qu'on les décrive avec une certaine globalité. Et donc alors, ça serait peut-être une faille sur l'approche scientifique et elle serait réductionniste. Mais est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce que la science, irrémédiablement, c'est de la réduction? On va voir que non, les physiciens nous ont montré que les gens qui font de l'intelligence artificielle, qu'au contraire, on peut passer du microscopique vers des concepts macroscopiques. Alors la question de la globalité, néanmoins, est une question qui a interpellé les philosophes à propos de la métaphysique. Et là, vous voyez, là aussi, on aurait quelque part quelque chose qui serait par définition inaccessible à la science. Alors, métaphysique, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous savez d'où est l'origine, quelle est l'origine de ce mot. C'est en fait un bibliothécaire grec qui rangeait les œuvres d'Aristote. Et Aristote a été un scientifique. Hein. Il a fait de la botanique, de la physique, avec des observations colligées dans des cahiers qui étaient d'une extrême précision. Et donc, le bibliothécaire a rangé tous ses bouquins scientifiques. Et puis après, il y avait d'autres bouquins. Et il n'arrivait pas à leur donner de titre, donc il a dit c'est métaphysique, c'est à côté, ça ne rentre pas dans la physique, c'est autre chose. Donc on a une première piste sur quel est le contenu de ces documents qui seraient à côté de ce qu'il a fait quand il était physicien. Alors ces documents abordaient deux choses, la théologie, bon certes, ça n'est pas l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, et l'étude de l'être en tant qu'être. L'ontologie, c'est-à-dire l'étude de l'être dans sa globalité. On retrouve là la globalité. Et là, c'est vrai que la psychiatrie, elle est intéressée par l'étude de l'être en tant qu'être pensant. C'est exactement l'objectif. Et donc là aussi, il y aurait une première faille. Ah, alors si dans la métaphysique, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas scientifique pour Aristote, si dans la métaphysique il y a l'étude de l'être en tant qu'être, alors peut-être qu'il y aurait des limites à l'approche scientifique dans la santé mentale. Mais c'est ce bibliothécaire qui a dit que ça ne relevait pas de la physique. Ce n'est pas parce qu'il l'a dit que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on a dit un jour qu'il y avait de la métaphysique qui n'était pas accessible à la science que c'est vrai dans la réalité. Comment, alors, et si on rentrait un petit peu plus dans cette question? Comment cette histoire de métaphysique, ça a été gérée par la suite? Alors il y a eu, au XVIIe siècle, de grands philosophes qui ont dit, ben, écoutez, cette question de la métaphysique, c'est-à-dire de Dieu, du sujet pensant, c'est quelque part des postulats, c'est-à-dire Dieu existe, voilà, c'est tellement évident qu'il existe, et le sujet pensant, vous savez, hein, le sujet pensant, il existe, et c'est d'ailleurs à partir de lui que l'on va tout construire. Donc en fait, ces questions de métaphysique, oui, elles sont centrales et elles sont des postulats. Alors c'est mal parti parce que du coup, si ce sont des postulats, on ne va jamais pouvoir les attaquer avec une approche scientifique. Mais ça a été le XVIIe siècle. Après, il y a eu encore un courant complètement contraire qui a été le courant empiriste britannique,